Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elisa Rojas. Bonjour Elisa Rojas.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Elisa Rojas, vous êtes avocate au barreau de Paris. On a pas mal entendu parler de vous quand vous avez publié une lettre très critique sur le Téléthon, il y a quelques années. Vous êtes féministe, militante, vous hochez de la tête. Vous me dites quand vous n'êtes pas d'accord. Vous tenez un blog, Elisa Rojas, que vous avez appelé « Aux marches du palais », dans lequel vous dénoncez les problèmes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Vous êtes aussi cofondatrice du collectif « Lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation ». Vous êtes vous-même atteinte d'une maladie qui vous handicape. Est-ce que cette présentation vous convient ?
Rien n'est faux. Tout est vrai. Donc oui.
Vous avez quelque chose à rajouter, Elisa ?
Il semblerait que je sois autrice aussi depuis quelque temps, mais ça fait encore plus de choses à mentionner. Mais oui, vous avez une présentation qui correspond à la réalité, qui est juste.
Effectivement, vous avez publié un livre qui s'appelle « Mister T et moi, Elisa Rojas ». Et c'est aussi de ce livre qu'on va parler, mais pas seulement. Vous avez choisi, Elisa Rojas, comme journée particulière ce jour d'avril 2009, où, prenant votre courage à deux mains, vous osiez faire une déclaration d'amour à un homme valide dont vous étiez amoureuse depuis plusieurs années.
Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration, ma déclaration.
Elisa Rojas, vous auriez aimé que ce jour d'avril 2002, votre déclaration se passe comme dans cette chanson de France Gall ?
Au départ, peut-être, mais je trouve qu'elle s'est passée d'une façon, certes très différente, mais tout aussi intéressante, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est une chanson que j'aime beaucoup.
Alors Elisa Rojas, ce qu'il faut dire, c'est que vous aviez tout prévu. Vous aviez écrit d'une certaine façon un texte, comme les plaidoiries.
Exactement. On peut dire que j'ai minutieusement préparé cette journée. Pas seulement le lieu, pas seulement ce que j'allais dire, la façon aussi dont j'allais arriver, dont j'allais repartir, c'était très important pour moi. Et effectivement, je l'ai rédigé. En fait, j'ai fait un plan, exactement comme on ferait pour une intervention orale, pour une plaidoirie, sur les conseils d'une amie également avocate. J'y avais même pas pensé, et quand elle m'a dit ça, ça m'a semblé tellement cohérent, logique, parfait, que j'ai procédé de cette façon-là. Ça me rassure beaucoup, de toute façon je suis une personne qui prépare tout.
Est-ce que vous pouvez décrire ce Mister T qui est cet homme dont vous êtes tombée amoureuse ?
Mais c'est un étudiant en droit qui avait à peu près le même âge que moi, il devait avoir un an de plus que moi à peine, et qui me plaisait beaucoup, dont j'ai été très amoureuse, qui était très beau, que je trouvais très intelligent et gentil et bien d'autres qualités encore, donc voilà.
Vos amis, Elisa Rojas, vous avez déconseillé de vous déclarer. Qu'est-ce qu'ils vous disaient ?
Il y avait tellement de... Ils m'ont dit tellement de choses durant cette période qui a duré quand même très longtemps. Il y avait un peu tout, il y avait à boire et à manger. Je pense que tout n'était pas forcément faux, mais c'était pas très bien argumenté. Et du coup, les arguments qui me paraissaient les plus insensés m'ont encore plus motivée, je pense, m'ont encore plus jetée dans l'obsession au lieu de me raisonner parce que je les trouvais insupportables. Et ils avaient peur très certainement que je me prenne un râteau, que je me suis pris d'ailleurs, et que je m'en remette pas ou que ça me blesse trop pour que je puisse aller de l'avant. Donc c'était un peu ça l'idée de pas se ridiculiser, parce que c'est un peu ça qu'on vous déconseille de faire quand vous allez déclarer votre femme à quelqu'un qui ne la partage pas. En fait, ce que les gens essayent de vous dire en vous disant n'y va pas, c'est de vous protéger d'une blessure et de ce qu'ils considèrent aussi comme étant une situation humiliante, en fait.
La réaction de vos amis vous a fait prendre conscience de ce que vous appelez le validisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, Elisa Rojas, le validisme ?
Alors, ce que c'est ? C'est le système d'oppression qui déshumanise et infériorise les personnes handicapées et qui fait des personnes valides la norme à atteindre et qui explique que la société soit organisée par et pour les personnes valides. Et ça repose notamment sur un ensemble de représentations faussées en fait, des personnes handicapées.
C'est-à-dire que ce seraient les personnes valides qui dirigeraient la vie des personnes handicapées. Ce qu'ont fait un peu vos amis en vous disant « ne le fais pas, c'est pas une bonne idée », même s'ils voulaient vous protéger, c'était quand même une façon de dire « nous valides, nous pouvons te dire comment tu dois te comporter ». C'est comme ça que vous l'avez entendu aussi, Elisa Rojas.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est une tendance très répandue des personnes valides de toujours savoir ce qui est mieux pour vous. Donc oui, il y a une forme de paternalisme dans le discours. Après, le domaine sentimental, je pense que pour tout le monde, c'est un domaine où tout le monde y va de son conseil.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, eux, ils y sont allés de leur conseil aussi, pour certains en voulant bien faire. Mais il y avait quand même des réflexions qui me paraissaient violentes, qui m'ont sans doute encore plus blessée qu'à l'habitude, encore plus poussée à réfléchir à ce qu'il y avait derrière ces conseils et ces remarques.
Alors c'était un beau jour de printemps, vous veniez d'avoir 30 ans, ou vous alliez les avoir, Elisa Rojas. Et vous aviez tout prévu, et d'abord le lieu où cela devait se passer.
Et dites-moi, Colette, si vous vouliez, vous, faire sentir à des amis lointains la poésie du printemps parisien, quel tableau évoqueriez-vous ?
Je crois que je la rappellerai, cette page de Proust sur les Tuileries. Cela commence ainsi. Devant le Louvre, s'élancent des roses trémières, légères comme des mâts, nobles et gracieuses comme des colonnes, et rougissantes comme des jeunes filles.
Elisa Rojas, vous aviez choisi le Jardin des Tuileries pour faire votre déclaration. Pourquoi ce lieu ?
En fait, je voulais un lieu calme. Comme il était impossible que je l'invite chez moi et que je n'allais pas m'incruster chez lui, il fallait que ce soit un lieu public, mais qui, tout en étant public, quand même permette une certaine intimité. Donc il est clair qu'un parc ou un jardin était vraiment l'idéal. Donc dans Paris, voilà, fallait trouver. Et il avait l'incroyable avantage, encore une fois, d'être à côté du Louvre. Du coup, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer une sortie extrêmement classique pour nous, qui était le musée, parce qu'on y allait souvent, et que c'est une de mes sorties préférées. De toute façon, aller au musée, j'adore. Le Louvre, j'adore aussi. Et je me suis dit, c'est parfait, parce qu'en fait, on va pouvoir d'abord voir une expo, on va boire un verre. Donc là, ce que j'ai dû faire d'ailleurs, c'est que comme on était dans un endroit avec des chaises, des tables pour pouvoir boire un café, et que moi je trouvais que c'était pas suffisamment intime et que j'avais peur que les gens autour de nous entendent, j'ai dû quand même le faire se déplacer vraiment à l'intérieur du jardin pour qu'on aille s'asseoir loin et qu'on puisse être le plus isolé possible.
Mais c'était la première fois que vous faisiez une déclaration d'amour. Et ce qu'il faut qu'on dise, Elisa Rojas, c'est que cet homme était un homme valide et que vous êtes donc une femme en fauteuil roulant et que c'est aussi ça qui faisait que vous aviez une trouille noire de vous déclarer.
Oui, évidemment, ça faisait partie de la difficulté. Mais de toute façon, je suis pas une personne très à l'aise avec les émotions et je suis pas quelqu'un qui exprime facilement ses émotions. Donc de toute façon, c'est un exercice difficile et compliqué pour moi. Et si je peux l'éviter, je le fais. Là, j'avais plus le choix. Donc j'ai pas pu éviter. Notamment, je voulais pas pleurer. C'était hyper important pour moi.
Bah oui.
Et j'ai réussi à pas pleurer et ça, j'étais super contente.
Et parce que vous vous attendiez à un refus, en fait, vous aviez fait aussi cette déclaration, Elisa Rojas, pour vous débarrasser de cet amour encombrant, obsessionnel, qui vous obsédait, quoi.
Totalement. En fait, je voulais me libérer. Je voyais pas d'autre option. La meilleure option, c'était d'affronter ce qui me faisait le plus peur. Et je voulais vraiment l'entendre. Et je voulais vraiment regarder ses yeux pendant qu'il me le disait pour être certaine que c'était vraiment la réponse sincère qu'il avait à faire. Mais quand il l'a dit, j'ai plus eu de doute sur le fait qu'il pensait ce qu'il était en train de dire, que c'était sincère, et ça me suffisait en fait. Là, je me suis dit, bon, bah, ma réponse, je l'ai.
Votre réponse, vous l'avez eue, ça vous a libéré d'une certaine façon, vous avez pu passer à autre chose.
Totalement. Franchement, ça m'a... c'est le mot, la libération, il n'y a pas d'autre mot.
En 2009, est-ce que vous saviez ce qu'on écoutait, Elisa Rojas? Les tubes de l'année 2009, grosso modo.
J'imagine que si j'en entends un, je vais tout de suite le reconnaître.
Alors je l'envoie. Elisa Rojas, vous avez reconnu évidemment.
Ouais, mais je me souvenais pas que c'était 2009, donc je suis hyper étonnée, mais j'adore cette chanson évidemment. Et le clip surtout qui est tourné en une seule séquence, et c'est une chorégraphie, enfin bon, j'adore.
Voilà. Et vous dansiez, vous étiez en train de danser en l'écoutant, alors vous avez raison, en fait en 2009, c'est le clip de cette chanson de Beyoncé qui a reçu le prix de la meilleure vidéo au MTV Music Awards.
Bah, donc, c'était mérité, hein, franchement.
C'était mérité.
Ouais.
Bon. Alors sur France Inter, c'est la journée particulière de l'avocate Elisa Rojas. En mai 2009, vous preniez donc un râteau, hein, on peut le dire comme ça.
Bah, c'est ça. Je pense que c'est le bon mot.
En déclarant votre flamme à un homme bégé, intelligent, bien sapé, un peu radin, beau comme dans les publicités pour déodorant masculin. C'est vrai, non ?
Oui, oui, oui.
Il avait tout ça. Alors justement, cette histoire d'amour, Elisa Rojas, non partagée, vous a fait réfléchir et elle a été pour vous l'occasion de revisiter le regard que l'on porte sur vous depuis que vous êtes enfant. Hello, my baby.
J'ai grandi à Brooklyn, dans le quartier d'East Flatbush. Quand j'étais petite, je ne me sentais pas différente. J'avais la polio, je ne pouvais pas marcher, mais j'avais plein d'amis et on jouait tous ensemble au ballon et à la corde à sauter. C'était un quartier très sympa. Un jour, on décide d'aller acheter des bonbons avec mes copines. L'une d'elles pousse mon fauteuil, on se promène dans le quartier. Et là, un groupe de gamins s'approche et un garçon me demande « T'es malade ?» Ça m'a beaucoup surprise. Et j'ai docilement répondu « Non, je ne suis pas malade. » mais je me souviens que j'ai eu envie de pleurer. Et ça m'arrive toujours, même si je suis devenue adulte. Je suis choquée quand on me pose cette question ou bien énervée. Et il faut toujours que je prenne sur moi pour me calmer. Ce jour-là, j'ai réalisé que les gens ne me voyaient pas comme Judy, mais comme une personne malade.
Elisa Rojas, vous avez reconnu cette voix tout de suite.
Oui.
Alors c'est un extrait du documentaire Crip Camp, ou La Révolution des Éclopés, qui a été produit par les Obama, et qui raconte l'histoire d'une colonie de vacances pour handicapés, duquel est parti un mouvement civique pour l'égalité. Pour vous, Elisa Rojas, est-ce que vous vous souvenez, vous aussi, de la première fois que l'on vous a renvoyé à l'image d'une femme ou d'une enfant handicapée ?
J'aurais du mal à identifier une première fois.
Ouais.
Parce que quand même, en institution, on vous renvoie constamment à ça. Ça paraît tellement cohérent et normal aux gens qui vous entourent de vous renvoyer constamment à ça, puisque vous êtes dans un lieu qui est destiné à vous prendre en charge, où toutes les personnes qui vous entourent de votre âge sont aussi handicapées. Donc, déjà à ce moment-là, je trouvais ça étrange déjà qu'on soit tous réunis au même endroit. Mais c'est vrai que c'est devenu différent, d'une brutalité différente, lorsque je suis arrivée en milieu scolaire ordinaire. Parce que voilà, là j'étais dans une configuration où j'étais la plupart du temps la seule élève de la classe handicapée, voire de l'établissement, et face à des adultes qui n'étaient pas du tout préparés à accueillir une élève handicapée.
Et après, cette situation s'est reportée tout le temps dans votre vie, j'imagine, quand vous avez fait vos études à la faculté, à l'école d'avocat. C'est quelque chose qui s'est répété ensuite par la suite, Elisa Rojas, ou pas ?
De toute façon, ça se répète constamment. Il suffit que je sorte de chez moi et qu'une personne ait envie de poser une question qui n'a pas lieu d'être, qui est intrusive, ou de faire une réflexion comme celle dont Judith Heumann parle, que j'ai entendue comme beaucoup de personnes handicapées un milliard de fois dans ma vie, et voilà, et vous êtes ramené en deux minutes à cet élément-là, et uniquement à cet élément-là, donc c'est constant.
Pourtant, vos parents ont fait très attention, ils ne vous ont jamais considéré comme une enfant handicapée, votre père était fou de vous, vous prenez en photo tout le temps, vous aviez une bonne image de vous. Quand est-ce que ça a basculé ?
C'est pas la question d'être considérée ou pas comme une personne handicapée. Je suis une personne handicapée. Mes parents n'ont jamais nié le fait que j'étais une petite fille handicapée. La question c'était pas ça. La question c'était est-ce que le fait que je sois handicapée devait pour autant me priver des mêmes possibilités ou de la possibilité de me sentir jolie, de dire ce que j'avais envie de dire, de penser ce que je voulais, de l'exprimer. C'est plutôt ça en fait.
Bien sûr, je me suis mal exprimée.
Je dirais que c'est vite ça. Et ma mère est une personnalité quand même très forte et très intéressante et très spéciale. Et elle a pris le parti dès le départ, en fait, de me dire que ça ne devait m'arrêter en aucune façon, mais que les difficultés existaient. Elle a jamais nié. Au contraire, elle a toujours reconnu que ça allait être complexe. Mais qui dit complexe ne veut pas dire impossible. Et l'important, c'était d'avoir la certitude que j'avais du soutien du côté de mes parents dans les décisions que je prenais.
Mais Elisa Rojas, est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai bien compris qu'avec cette histoire d'amour avec cet homme, d'une certaine manière, vous avez pris conscience aussi de l'image dégradée que vous aviez de vous-même, ce qui n'était pas le cas quand vous étiez enfant ?
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris conscience à ce moment-là, ça a été long hein, quand même, ça a été progressif, de la place qu'on avait en tant que personne handicapée dans cette société et en tant que femme handicapée. Et c'est surtout ça. Et pour essayer de comprendre pourquoi j'étais aussi mal à l'aise avec mon reflet dans le miroir, pourquoi j'avais une image aussi dégradée, notamment physique. Il y avait une dissociation entre justement tout ce qu'on valorisait chez moi qui relevait de la personnalité, de l'intérêt, intellect, etc. Et puis, ce qui paraissait poser problème à tout le monde, c'est-à-dire mon apparence physique qui est forcément impactée par ma maladie et mon handicap. Donc, du coup, j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. Donc, j'ai dû remonter à la source pour me demander est-ce que j'avais toujours été comme ça, est-ce que j'avais toujours eu cette impression, par exemple, d'être laide, d'être affreuse, d'être un monstre, en fait. Parce que c'était vraiment où j'en étais arrivée à l'âge de 20 ans et quelques. Et puis, je me suis rappelée que c'était pas le cas. Je me suis rappelée que quand j'étais petite, je voyais mon père travailler. Mon père, il se trouve qu'il est photographe. Je voyais mon père photographier ma mère. Il me photographiait aussi beaucoup parce que j'étais dans le coin et que de toute façon, je voulais aussi être sur la photo. Et je pensais être dans la moyenne, en fait. Je pensais pas forcément être plus jolie que ça, mais j'avais cru comprendre que finalement, il suffisait de savoir prendre soin de soi, se maquiller, bien se coiffer, bien s'habiller, parce que mes parents étaient très portés sur ça. Et je pensais qu'il suffisait de ressembler à une fille ou à une femme pour être considérée comme une femme.
Et quelles sont les questions que vous avez essayé de décortiquer ?
J'ai tout reposé en fait. J'ai vraiment, fallait se demander pourquoi est-ce que je m'exclus de la beauté ? Si on prend que ce mot-là, par exemple. Pourquoi je considère que je suis laide et que ce que je vois dans le miroir n'est pas satisfaisant et n'est pas susceptible de plaire à quelqu'un ? Bon, j'ai creusé. Je me suis dit, c'est ce que je vois partout dans les médias qui me définit ce qu'est la beauté. Et puis, qui crée ces images ?
Bien sûr.
Des personnes valides, des hommes, notamment des photographes comme mon père. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme définition, etc. Pourquoi, à quoi elle sert, cette définition, à diviser les femmes entre elles, à garder le contrôle ? Voilà, c'est de cette façon-là que c'est comme une pelote en fait, on tire le fil et puis tout se déroule.
Et vous vous êtes aussi posé la question de ce qui fait qu'on est désirable ou pas.
Exactement, c'était lié de toute façon. Donc qu'est-ce qui fait que les femmes handicapées ne sont pas considérées comme désirables? Forcément, il a fallu se poser cette question-là pour comprendre que ce qu'on nous présente comme étant des réalités objectives ne sont pas du tout objectives, elles sont totalement subjectives, qu'elles reposent sur rien d'autre que la volonté de maintenir un système de domination et qu'une fois qu'on le sait, du coup, tout redevient possible. On peut tout redéfinir.
Et c'est ce que vous avez fait, vous avez tout redéfini. C'est là où vous en êtes aujourd'hui ?
Oui.
Vous avez récupéré cette liberté parce que vous avez tout redéfini ?
Ouais, mais je pense qu'on devrait tous, justement, s'interroger et redéfinir tout ça. Parce que les définitions qu'on en a, elles rendent... J'ai pas l'impression qu'elles rendent les gens heureux. Je pense qu'elles nous enferment toutes. Et si on veut s'en libérer, il y a que comme ça qu'on peut s'y prendre.
I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I I think it's pretty.
Elisa Rojas, c'est pour vous ce disque, c'est un peu votre hymne, hein, Gloria Gaynor, I am what I am.
Ah, c'est l'hymne de plein de personnes, et surtout je pense que quand on appartient à une minorité, c'est pas une chanson qui peut vous laisser indifférente, tellement les paroles sont géniales.
Elles disent quoi les paroles?
Elles disent je suis ce que je suis, j'ai pas besoin d'ovation, j'ai pas besoin de ta pitié, enfin c'est grandiose, c'est exactement ça.
Alors jusqu'à 15h, c'est la journée particulière d'Elisa Rojas. En mai, hein, mai-juin 2009, vous osiez déclarer votre amour à un homme valide. Cette histoire vous a fait prendre conscience de manière brutale de ce que signifiait d'être une femme handicapée dans notre société. Cette histoire vous a permis de vous réapproprier votre corps. Vous ne le négligez plus, vous ne le méprisez plus. Vous vous êtes libérée des injonctions qui pèsent sur les femmes handicapées et... vous prenez la parole publiquement, Elisa Rojas, dès que vous entendez un discours nocif sur le handicap. Et ça, dès 2004, on vous a entendu, vous avez publié une lettre formidable dans Le Monde, hein, c'est ça, Le Monde et Le Nouvel Obs ?
Ouais, c'est ça, exactement.
Où vous remettiez en cause le Téléthon. 2004, c'est ça, c'était le son du bilan du Téléthon de 2004, justement. Est-ce que vous pouvez me lire la fin de la lettre que vous avez publiée et qui a fait grand bruit ?
Oui. Alors, le Téléthon, quel que soit le chiffre obtenu au compteur, cela n'y a rien changé. En 17 ans, il n'a pas changé le regard des gens face au handicap, ni notre rapport à la maladie. Il préfère acheter à coups de dons la mauvaise conscience collective. Par conséquent, si cette année vous voulez faire un geste en faveur des personnes handicapées, faites comme moi. Éteignez la télé.
Comment ça a réagi après cette lettre, Elisa Rojas ?
Ah bah ça dépend de quel côté. Moi je retiens souvent plus les choses positives que les choses négatives. Donc j'ai été agréablement surprise par la façon dont cette lettre a pu intéresser les personnes à la fois concernées et les personnes valides. Donc je peux pas me plaindre du fait que ça m'a montré que c'était la voie à suivre et qu'il fallait continuer.
Parce que dans le Téléthon, vous avez l'impression que c'est une mascarade.
Oui, c'est forcément hypocrite, en fait. Si on voulait vraiment mettre des moyens financiers dans la recherche, ça relève d'une décision politique. Voilà, donc je pense que, en plus, avec ce qu'on vit actuellement pendant la pandémie, on voit bien que si vous mettez les moyens et que tout le monde s'active à travailler sur le même sujet, et ben, ça peut avancer très vite.
À cette même époque, enfin après un peu plus tard, après une longue hospitalisation, vous avez décidé d'écrire un blog pour parler des problèmes d'accessibilité des personnes handicapées.
Oui, en fait, ce que je voulais, c'était poursuivre ce que j'avais commencé à ce moment-là en 2004 et que j'ai pas pu immédiatement continuer parce que j'avais pas terminé mes études, que je voulais pas me disperser et qu'il me semblait quand même nécessaire d'arriver au bout. Donc, je suis rentrée dans le monde du travail. Ça a été compliqué. Ça a été quand même aussi des sources de difficultés importantes. Il a fallu que j'essaye de voir si je pouvais exercer mon métier. Ça m'a pris plus de temps que ce que j'imaginais.
Être avocate?
Ouais. Enfin, ben, on se laisse, grignoter par le travail en fait, si vous voulez être occupé H24, c'est un métier parfait, donc voilà. Et il se trouve qu'à un moment donné, le rythme était beaucoup trop important et j'arrivais plus vraiment à préserver ma santé. Donc j'ai eu un problème de santé qui m'a obligée à remettre les choses en perspective, et là je me suis souvenue en fait que j'avais pas pu véritablement continuer comme je le souhaitais ce travail là et je me suis dit, je vais changer d'organisation professionnelle et à cette occasion, j'aurai le temps qu'il me faut pour pouvoir continuer à écrire. C'est là que j'ai créé le blog, en fait.
Et le blog s'appelle « Aux marches du palais ».
Aux marches du palais.
Les marches du palais ne parlent pas. Mais si les marches du palais pouvaient parler, elles diraient toutes sortes d'histoires chuchotées ou criées. Des histoires sur lesquelles nous allons pour vous lever le voile, un peu. Pour découvrir les secrets de Thémis, nous aurions dû faire comme Asmodée. Nous aurions pu soulever les toits de cette immense métropole qui s'étend de part et d'autre de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle. Pourtant, les toits garderont leurs secrets. Nous ne voulons pas vous faire commettre une indiscrétion.
Elisa Rojas, je vous vois hocher de la tête avec cette archive.
Ouais. Quoi? Je sais pas d'où elle vient, mais c'est intéressant.
C'est très intéressant. Mmh. Elle vient de l'INA.
D'accord. Hein,
c'est une archive des années 60 de l'INA. Elisa Rojas, est-ce que c'est vrai que vous avez commencé ce blog le jour où vous vous êtes retrouvée à assister à un de vos clients dans une des cuisines du Palais de Justice?
Ben, disons que ça faisait un moment que je voulais essayer d'évoquer toutes ces difficultés. Et puis, ce truc-là était tellement étrange, ubuesque, que oui, ça, sans doute que ça a dû me motiver davantage et que j'ai demandé l'aide technique de mon cousin pour qu'il crée le blog et que je puisse commencer à poster des billets.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des situations dans lesquelles vous retrouvez avec ces problèmes d'accessibilité? Ça peut être quoi?
De toute façon, les lieux de justice, d'une façon générale, ils sont pas totalement ou même pas du tout parfois accessibles. Donc ça veut dire concrètement, vous arrivez, il y a des marches partout.
Donc vous êtes accompagnée, vous êtes obligée
d'être accompagnée? Moi, je suis toujours accompagnée, bien sûr. J'ai de l'aide humaine, j'ai une auxiliaire de vie qui m'accompagne. Je pourrais pas exercer ma profession si j'avais pas cette aide-là. Donc tout prend plus de temps, tout est aussi angoisse supplémentaire. C'est déjà un métier compliqué avec des responsabilités importantes, mais forcément ça vient ajouter aussi au stress. Donc c'est ce type de difficultés que je trouve d'autant plus grave au-delà de mon cas personnel, qui est pas forcément beaucoup d'autres personnes sont concernées, mais juste c'est quand même le service public de la justice, quoi. Donc, avoir des palais inaccessibles, c'est hautement symbolique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, les personnes handicapées sont une catégorie sociale de personnes qui subissent constamment des discriminations et des injustices. Et s'il leur venait l'idée de vouloir être reconnus dans leurs droits, ils seraient confrontés d'abord à une injustice supplémentaire qui est de, par exemple, pas pouvoir entrer et accéder à leur salle d'audience. Enfin, moi, je trouve ça honteux, quoi, pour un pays comme la France, d'avoir des palais et des lieux de justice qui ne soient pas entièrement accessibles.
Comme si vous ne pouviez jamais faire valoir vos droits. En tous les cas, demander justice.
Ça veut dire ce que ça veut dire, oui, exactement.
C'est aussi pour ça, alors, que vous avez créé, vous avez cofondé ce collectif.
Tout à fait. De toute façon, ce que m'a... pas appris, mais disons que ce que j'ai trouvé fondamental dans la lettre sur le Téléthon et dans tout ce que j'ai fait par la suite, c'était que au fond faire de la pédagogie individuelle, comme j'ai pu le faire auprès de mes amis pendant un certain temps à l'université, ça va bien 5 minutes, mais en vrai, ça vous épuise, en fait. Ça vous vide de votre énergie. Donc, il y a un moment donné où vous êtes obligé de vous dire, il va falloir porter ce discours bien au-delà. Il va falloir le rendre public pour convaincre un maximum de personnes le plus rapidement possible et faire d'une pierre bien plus de coups que les prendre juste un par un pour essayer de leur expliquer les choses.
Alors les convaincre de quoi ?
Du fait le discours qu'on leur tient sur le handicap est totalement bancal, que les problèmes ne se situent pas du tout là où ils imaginent qu'ils se situent, que des solutions il peut y en avoir, que c'est d'abord un problème politique et un problème social et pas un problème médical ou qui relève du caritatif. Donc c'est constamment recadrer tous les débats et toutes les discussions qui gravitent autour de cette question. Je dirais que c'est le cœur de notre travail, en fait. De constamment, à chaque fois que quelque chose émerge sur le plan médiatique, c'est souvent mal présenté.
Ouais.
Donc on est constamment obligé de revenir et d'essayer, en argumentant de façon pertinente, de démontrer que peut-être qu'on regarde pas la lune, mais le doigt.
D'accord. C'est ce que vous faites aussi particulièrement sur ce problème qui est un problème d'actualité en ce moment, sur l'allocation adulte handicapé et sur le fait qu'aujourd'hui cette allocation est dépendante du revenu du conjoint de la personne handicapée.
Là, c'est en effet une question importante qui a été portée par les militants sur les réseaux sociaux, par les personnes concernées, puisque il s'agissait d'essayer de mettre à l'ordre du jour au Sénat la question de la désolidarisation de l'allocation adulte handicapé des revenus du conjoint, une mesure à laquelle Sophie Cluzel, la secrétaire d'État au handicap, s'est clairement opposée, hein, avec des arguments toujours plus stupides les uns que les autres. C'est de plus en plus catastrophique. Du coup, on avait une possibilité via le site du Sénat de remettre à l'ordre du jour cette question. Et il y a des gens qui se sont mobilisés pour mettre en place cette pétition et pour la faire signer. Moi, je me suis contentée de la soutenir simplement. Et donc, c'est ce qui est positif, c'est qu'elle a atteint le nombre de signatures qui était requis, qui était 100 000, et bien avant que le délai arrive à son terme. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle.
Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette allocation adulte handicapé, vous, Elisa Rojas, pour faire comprendre où se situe le problème?
C'est simplement que, en prenant en compte le revenu du conjoint, s'ils sont trop importants, la personne qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé perd le bénéfice de son allocation. Forcément, c'est le terreau idéal des relations abusives, puisque en devenant totalement dépendant financièrement de votre conjoint, s'il décide de s'en servir et de vous asservir grâce à ça, il peut le faire. Et comme on sait également que les femmes handicapées sont très exposées aux violences, elles se retrouvent totalement piégées. Et c'est absolument scandaleux de pas permettre aux femmes handicapées de pouvoir bénéficier d'une allocation calculée de façon individuelle pour les rendre autonomes.
Vous avez aussi beaucoup parlé de ça, Elisa Rojas, des violences que subissent les femmes handicapées. J'avoue que j'ai découvert ce type de violence et aussi tous les cinglés qui sont attirés par les femmes handicapées.
Oui.
Vous êtes allé sur les sites de rencontres et vous avez vu des choses comme ça, vous les avez vécues et vous avez vu la vulnérabilité.
En fait, de toute façon, la violence, elle fait partie de la vie des femmes et elle fait partie de la vie des femmes handicapées. Malheureusement, encore plus. Donc, il était normal d'aborder cette question-là et de parler de la violence, d'ailleurs, sous toutes ses formes, parce que je pense qu'il y a des violences de différentes formes dans le livre, tout simplement parce que ne pas évoquer cet aspect-là, ça aurait été mentir, ça aurait été ne pas être honnête sur ce qu'est la vie d'une femme handicapée. Donc oui, j'ai découvert à l'occasion de cette expérience qu'il y avait des hommes qui fétichisaient le handicap d'une façon effrayante, qui s'imaginent pouvoir avoir des partenaires plus dociles, plus malléables que la moyenne. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça hyper inquiétant. Et je pense qu'il faut en avoir conscience en tant que femme handicapée, sans pour autant s'interdire de vivre ce qu'on a envie de vivre. C'est toute la complexité d'ailleurs de notre position. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir un discours qui tourne uniquement autour de la vulnérabilité, parce que personne ne peut avancer en se disant, oh mon Dieu, je risque le pire à chaque étape. Donc il faut aussi se donner la liberté dans ce domaine-là de pouvoir vivre des choses positives qui quand même existent. Mais il faut avoir conscience des rapports de force en présence.
Hélène Keeler, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, devint à 2 ans sourde, aveugle et muette à la suite d'un mal mystérieux. Elle était jetée brutalement dans le monde de la nuit et du silence. Et pourtant, Hélène Keeler en sortit d'une façon remarquable. Elle parvint à parler suffisamment, alla au collège, obtint une licence de lettres et se lança dans l'action, sans oublier d'apprendre le latin, le grec, l'allemand, le français et l'espagnol. De son infirmité même, elle a su tirer une puissance de rayonnement qui s'étend sur les 7 millions d'aveugles du monde entier. Et toujours avec cette joie et ce rire joyeux qui la caractérisent. Je vis avec 2 mots, sagesse et amour, disait-elle. C'est ce qui explique sans doute la force étonnante de cette femme qui a su nous donner une magnifique leçon d'optimisme.
Elisa Rojas, vous levez les yeux au ciel, je vois ça sous votre masque, dites-moi.
Parce que, en fait, ce qui se passe avec Hélène Keeler, qui est un personnage vraiment extrêmement intéressant,
ouais.
sur le plan militant pour les personnes handicapées. Moi, j'ai lu sa vie quand j'étais petite. C'était rédigé pour les enfants d'une dizaine d'années. Et ce qui est affreux, je trouve, et triste, c'est à quel point on a édulcoré l'histoire d'Hélène Keller. Voilà, tout ce discours autour de la force puisée dans le handicap qui, moi, me parle pas du tout. Ouais, me gonfle parce qu'il correspond pas du tout à la réalité. C'est pas du tout ça, en fait, qu'on vit. Et donc, on l'a fait passer, voilà, pour cette personne qui a transcendé son handicap, qui a fait des études, qui a écrit et tout, qui est devenue conférencière, alors que en fait on passe à la trappe ce qui est le plus intéressant chez elle, c'est-à-dire que c'était une femme de gauche, c'était une femme engagée, elle était socialiste, elle était féministe, elle s'intéressait à plein de choses. Et d'ailleurs, quand elle a commencé à s'exprimer sur des sujets politiques, eh bien la soi-disant admiration que lui portaient beaucoup de gens s'est transformée en haine. Le fait qu'elle ait les velléités politiques et qu'elle ait la prétention d'avoir une vision globale du monde politisée, et ben ça convenait plus du tout à beaucoup, beaucoup de gens qui la soutenaient au départ et qui ont trouvé que elle racontait n'importe quoi et qui sont même allés expliquer qu'elle avait ses idées parce qu'elle était handicapée.
Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Garde dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Plus souvent c'est quand je pense à toi. I've got a fever, can you check? And on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Tell me what you wanna do right now. Cause I don't really wanna cool it down.
Zoé Varié sur France Inter.
Elisa Rojas, vous avez de la chance parce que Dua Lipa et Angèle sont en playlist de France Inter. Et c'est justement ce que vous écoutez en ce moment.
Ouais, c'est une super chanson.
Alors en avril, non, mai-juin 2009, Elisa Rojas, vous déclariez votre amour à un homme qui ne vous aimait pas. Et l'année 2009 commençait mal pour les personnes handicapées. Le 1er janvier 2009, la Sécurité sociale ne prenait plus en charge les frais de transport pour les adultes handicapés. À la place, une allocation de 200 euros par mois, insuffisante évidemment pour couvrir tous les frais. Bon, plus joli, plus sympathique. En 2009, Elisa Rojas, le tournage de Game of Thrones commençait. Elisa Rojas, dans votre blog, vous avez écrit sur Game of Thrones. Ce que vous préférez, c'est ce générique-là qu'on est en train d'entendre.
Oui, en fait, et en plus, c'est horrible à dire pour tous les fans et tout, mais mon truc préféré, c'est le générique. Parce que je suis pas une vraie fan de la série, mais je l'ai regardée.
Et pourquoi ?
Parce que je voulais voir comment était écrit le personnage de Tyrion. En fait, parce que j'en entendais beaucoup parler, et du coup, en été, j'ai tout rattrapé juste avant la dernière saison pour être à jour et pouvoir regarder la dernière saison avec ma sœur qui, elle, aimait beaucoup. Et donc, j'ai tout regardé et j'ai pris des notes.
Parce que Tyrion, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Pour ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones.
Tyrion, c'est un personnage qui est un homme de petite taille, qui fait partie d'une des familles importantes de la série, la famille machiavélique, on peut dire. Et en fait, c'est un personnage qu'on peut considérer comme étant handicapé. En tout cas, il est clairement physiquement différent de la moyenne. Et c'est un personnage qui est extrêmement bien conçu, bien pensé et bien écrit.
C'est ça que vous voulez voir, c'est-à-dire comment on représentait ce personnage, comment
exactement,
il était perçu.
Exactement. Je pense qu'il doit beaucoup ici à l'acteur qui l'interprète, qui est un acteur qui, depuis le départ, fait des choix hyper intelligents en termes de carrière pour essayer d'éviter justement tous les rôles stéréotypés qu'on propose aux personnes de petite taille.
C'est Peter Dinklage.
Ouais, il est génial et je pense que le résultat est vraiment, vraiment réussi parce qu'on a un personnage complexe. Ce qui est très rare dans une série ou dans une production culturelle, quelle qu'elle soit, quand ça concerne une personne handicapée ou une personne différente physiquement de la moyenne. Et là, on a vraiment un personnage avec des défauts, avec des qualités, qui est vraiment, vraiment réussi, quoi.
Alors, comme vous êtes une midinette...
Ça, c'est vous qui le dites.
Ah bah, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit côté midinette sous les... On peut être militante et midinette.
Mais c'est quoi une midinette pour vous ?
Eh ben, c'est quand même d'adorer ce chanteur Raphaël, alors que peut-être les auditeurs ne connaissent pas puisqu'il est espagnol.
C'est un classique, en fait, Raphaël. C'est vraiment un classique.
D'accord, c'est un classique et il se trouve qu'en 2009, il fêtait ses 50 ans de carrière.
Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor.
Elisa Rojas, les chansons latinos d'amour.
Ouais, il y a quelque chose de particulier, d'inexplicable en fait.
Que vous adorez.
Ouais, parce que je pense que bah, la définition qu'on a de l'amour, elle est quand même culturelle aussi, et qu'il y a des différences culturelles. Et c'est vrai que j'ai du mal à trouver des chansons en français, à part Edith Piaf, qui décrivent l'amour comme moi je le vois. Autant je crois pas au couple, je crois plus au mariage, la monogamie non plus. Il y a beaucoup de choses auxquelles vraiment je ne crois plus. Mais par contre, je crois en l'amour. Je crois au sentiment amoureux, à sa réalité, à sa puissance. Et en plus, ce que je trouve incroyable dans l'amour, c'est que c'est un sentiment qui vous transforme, en fait. Et le fait que ça puisse transformer une personnalité. Et par exemple, rendre une personne comme moi, qui suis quand même une personne prudente, mesurée dans ce que je dis, dans ce que je fais, en quelqu'un de totalement irrationnel... Et ben ça, je trouve ça non seulement hyper drôle, mais voilà, ça me fascine en fait.
Bon, mais moi j'aime bien les fleurs bleues, j'aime bien les midinettes, et j'aurais dû dire, Elisa Rojas, que vous êtes franco-chilienne.
Oui.
Parce que quand vous parlez de l'aspect culturel, c'est de ça dont vous parlez en vérité. Juste avant de se quitter, un petit cadeau, quoi.
Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La 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 la.
Le générique du dessin animé des Zinzins de l'espace, composé par Iggy Pop. Alors là encore, je me réfère à votre blog. Dans votre blog, vous avez expliqué que pendant le premier confinement, Elisa Rojas, vous avez regardé Les Zinzins de l'espace, et il se trouve, hasard ou pas, que l'histoire des Zinzins de l'espace, c'est une histoire de confinement. Mais vous avez écrit un texte qui m'a beaucoup intéressée, où vous expliquiez que le confinement, ce n'était pas une nouveauté pour les personnes handicapées, qui étaient toujours entravées dans leurs déplacements. Et peut-être que là, on pouvait prendre conscience de certaines choses dont on n'avait pas conscience. C'est ça que vous avez voulu faire,
Elisa Rojas,
c'est ça. Qu'on comprenne.
En fait, le confinement, c'est une contrainte. Et quand vous êtes une personne handicapée, la contrainte, vous savez ce que c'est, en fait. Vous vivez dans la contrainte, justement parce que rien n'est conçu pour vous permettre d'évoluer exactement à égalité avec les autres. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que peut-être que certaines personnes ont découvert ce que c'était que d'avoir davantage de contraintes dans leur vie. Je pense pas que ça ait beaucoup suffi, parce que je vois qu'il y a encore quand même des gens qui considèrent que porter un masque, par exemple, c'est une contrainte. Je dis pas que c'est forcément hyper sympa et agréable, mais c'est rien, en fait, comparé d'une part à une hospitalisation en réa, et d'autre part à bien d'autres contraintes que vivent quotidiennement des personnes handicapées, qui doivent vraiment, dans chaque aspect de leur vie quotidienne, tout programmer, tout penser, qui s'épuisent et qui passent d'ailleurs une grande, grande partie de leur temps, et qui mettent beaucoup trop d'énergie vitale à devoir réunir les conditions simplement de leur existence, parce que rien n'est fait pour leur faciliter la vie.
Et c'est pour ça que vous terminez cet article de votre blog par ces mots: le confinement se terminera pour les valides, mais pas pour les personnes handicapées, à moins que vous ne preniez conscience avec cette expérience de l'importance de nos combats et de la nécessité de ne plus nous imposer ce que vous ne supportez pas vous-même.
Oui, mais ce qui est effrayant, c'est que finalement, la situation, elle a aggravé encore plus l'isolement des personnes handicapées. C'est-à-dire que là où les personnes valides sont confinées, les personnes handicapées se retrouvent surconfinées. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas, en fait. Et puis en plus, tout ce qui s'est passé là en un an autour de la crise sanitaire, malheureusement, n'a pas du tout aidé, je trouve, à faire prendre conscience de quoi que ce soit, mais au contraire à légitimer un discours qui considère que toutes les vies n'ont pas la même valeur et que il n'y a pas à proposer des soins en réanimation à des personnes handicapées très dépendantes dont on considère que la vie finalement ne vaut pas grand chose. Donc non seulement on est pour beaucoup à haut risque, on sait que si on se retrouve à l'hôpital, on sera probablement exclu de la réanimation, et en plus rien n'est fait pour nous vacciner dans un délai raisonnable. Donc je ne sais pas si vous imaginez la situation psychologiquement pour les personnes concernées, mais c'est une maltraitance d'État, on peut le dire, et c'est catastrophique pour nous, et c'est vraiment de plus en plus difficile. On aurait bien aimé que justement les personnes valides s'interrogent sur l'organisation qu'elles ont mis en place et reconnaissent qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Ben, j'espère que vous serez entendue, Elisa Rojas. En tout cas, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Votre livre « Mister T et moi » est publié aux éditions La Belle Étoile. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe et la documentation d'actualité et Alina avec Sabine Dahuron. À la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard, à la technique Dofar Guérid. Et voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, dimanche, 14h. Passez un bon week-end.